Le signe No 27. Si nous pêchons volontairement. Le 11 octobre 2015. Brian Kozurek. Pasteur. Ce soir nous lirons le prochain paragraphe du sermon de frère Branham sur le signe prêché le 1er septembre 1963. Allons au paragraphe 225, que nous lirons comme texte. 225 maintenant. Maintenant. De partout en Égypte. Et, regardez, comme nous voyons ce qu'ils ont fait, et que nous voyons apparaître le moment, nous recevons l'ordre de faire la même chose qu'eux. Saviez-vous cela? Voyez ce qu'a dit le prophète. 226 Nous allons lire maintenant, si vous le voulez bien, dans Hébreux, chapitre 10. Et, si vous voulez lire avec moi, je veux en lire un verset ou deux, avant de continuer. Hébreux, chapitre 10. Et commençons depuis le verset 26 du chapitre 10 d'Hébreux. Non, je, voyons voir. Oui. Oui, Hébreux, chapitre 10. Et le verset 26. Voyez-vous. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu 227 voyons voir, Esther ce que c'est Esther bien cela? Oui. C'est Esther ça. Oui. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne m'y reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Regardez bien. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sous la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane l'alliance du sang par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce qui est intervenu du sang? Prions. Si nous devons comprendre ce sur quoi frère Branham commente ici, nous devons comprendre exactement ce dont l'apôtre Paul parlait ici. Par conséquent, ce soir nous prendrons un court message sur quelques mots-clés que l'apôtre Paul utilise dans cette portion des Écritures, en sorte que nous puissions arriver à une meilleure compréhension de ce dont il est question. Puisqu'après tout, nous entendons Paul en parler dans l'Alpha et frère Branham y refait allusion dans l'Oméga. Ainsi nous savons qu'il est vitalement important pour nous de comprendre ce passage parce que cela concerne l'heure où nous vivons. Vous pourriez vous dire, comment dites-vous que ceci concerne cette heure? Parce que l'apôtre Paul venait juste de nous dire au verset 25 des mots qui sont très spécifiques au temps de la fin. Hébreux 10h25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme s'estère la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour de notre Seigneur, la période du jugement, le jour du jugement vient. Et puisque nous savons que le juge estère ici, et s'estère même fait prendre photo, alors nous devons savoir que le juge est venu pour commencer le jugement. Par conséquent, lisons ensemble les versets 25 et 26 tels qu'ils ont été écrits, pour avoir une meilleure compréhension de la situation qui nous montre que c'est pour les gens du temps de la fin. Et puisque ces paroles ont été écrites sous forme de lettres, aucun verset Néhémie leur a été assigné par l'apôtre Paul, mais cela a été fait à une date plus ultérieure, quand les lettres du Nouveau Testament ont été compilées ensemble comme épîtres. Hébreux 10h25 N'abandonnons pas notre assemblée, comme s'estère la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. 26 Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne m'y reste plus de sacrifice pour les péchés. 27 Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 28 Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de deux ou de trois témoins. 29 De quel pire châtiment, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance? Par lequel il a été sanctifié. Et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? 30 Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. 31 C'est-à-dire une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Maintenant, faisons juste une étude rapide de ces mots que j'ai soulignés en sorte que nous puissions avoir une meilleure compréhension de ce que l'apôtre Paul nous dit. Remarquez, Paul parle d'outrager l'esprit de la grâce. Le verbe outrager a été traduit du mot grec anubriso et il signifie offenser, ou mépriser et traiter avec mépris. Maintenant, ce qu'il méprise et traite avec mépris, c'est-à-dire l'esprit de la grâce. C'est-à-dire l'esprit même de la grâce qui nous sauve qu'il méprise, ce qui signifie qu'il méprise avec dédain, dédaigneusement et comme n'ayant pas de valeur. La grâce même qui a été pourvue à la croix quand Jésus, le Fils premier-né de Dieu, a versé son propre sang, et qui est mort à notre place, est méprisé par ces gens qui sont volontairement incrédules. Oh! Là! Là! Quand le Dieu même qui a créé l'univers, a envoyé son Fils né d'une naissance exceptionnelle, Jésus, mourir à notre place, et ces gens du temps de la fin s'en fichent éperdument. Il n'y a qu'une seule chose qui leur convient. Et c'est leur jugement. Peut-être je devrais le dire d'une autre manière. Quand vous savez que vous êtes coupable, et que vous entrez dans la salle d'audience du juge, au lieu d'implorer le pardon, il lance des injures au juge, comme nous le voyons tant de fois dans nos salles d'audience aujourd'hui. Cela prouve que ces gens ont totalement perdu la raison, et comme nous savons que c'est l'un des états du temps de la fin, dont frère Branham parlait, cela nous indique que nous sommes à la fin. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne lui reste plus de sacrifice pour les péchés, car si nous sommes volontairement incrédules, cela signifie qu'on vous a montré la vérité, et vous savez que vous avez tort de faire ce que vous faites et vous allez de l'avant et le faites de toute façon. Combien de gens, vivant dans ce message, et combien de ministres qui ont divorcé de leurs épouses et se sont remariés en espérant qu'ils peuvent trouver un passage qui les fera entrer au ciel. Parler de démence. Et j'ai dû m'occuper de telles situations outre-mer avec des ministres, et c'est si répugnant que parfois je voudrais juste m'en aller dans un lieu désert et n'aimer plus en sortir jusqu'à ce que le Seigneur m'appelle à la maison. Mais Néhémie m'a pas appelé à être prophète ou encore je Néhémie m'en irais certainement pas maintenant. Il m'a appelé comme apôtre et c'est comme apôtre que je dois m'occuper de ces choses. Nous, comme ministres œuvrant ensemble dans les champs missionnaires à l'étranger, avons dû faire sortir certains pasteurs de la protection du sang, parce qu'ils ont prouvé par leur conduite qu'ils ont tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel ils ont été sanctifiés, et qu'ils ont outragé l'esprit de la grâce, vous dites, non, c'est l'incroyant là dehors. Non, vous avez tort. C'est l'incroyant juste dans ce message, des hommes et des femmes qui prétendent croire le cri ou le message avec lequel Dieu lui-même est descendu. Et ils savent faire ce qui est juste et ils n'aimaient le feront pas. Et ils n'ont pas d'excuses. La guérison divine 52-54-06-20e 52 Regardez ici. Hébreux 10 dit ceci, celui. Je termine, celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne lui reste plus de sacrifice pour le péché. Hébreux 10 je crois. 27. Est-ce exact? Celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Maintenant, celui qui fait quoi volontairement? Celui qui pêche. Et qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Celui qui tournera le dos à la vérité, quand cela lui est présenté, il n'y reste plus de sacrifice pour le péché. L'avez-vous déjà lu comme ça? Celui qui n'y croit pas volontairement, après que la vérité lui a été présentée, parce que son Église croit différemment. C'est-à-dire quand vous traversez la ligne de démarcation. Celui qui pêche volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y reste plus de sacrifice. Ainsi nous voyons que William Branham place ceci dans le contexte de Néhémie pas croire la vérité quand elle vous est présentée. Quand vous vous en désintéressez volontairement, à ce moment-là précis, vous avez franchi la ligne de démarcation entre la grâce et la disgrâce. Le signe 62-64-0208-62. Voici ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 26. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible et redoutable du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est-à-dire, si nous refusons volontairement de croire après que nous avons reçu une connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Pensez-y. Peu importe ce que vous pensez dans votre cœur, le signe Néhémie peut jamais être appliqué. Si vous rejetez cela pour la dernière fois, alors cela Néhémie pourra pas être appliqué. Pour celui qui pêche ou qui refuse de croire volontairement. Ainsi, nous parlons d'une ignorance volontaire. Ils savent mieux mais ils choisissent néanmoins d'être incrédules. Puis Jésus vint et appela eux 164-04-17-100 mais à ce sujet, quand nous plaçons vraiment nos mains sur notre sacrifice, Jésus, et sentons dans nos cœurs que nous sommes coupables, et savons ce que nous faisons, le sang de ce sacrifice, la vie qui était dans ce sang était Dieu lui-même, ainsi il revient sur vous sous la forme du Saint-Esprit. Vous devenez alors un fils de Dieu, plus de conscience du péché. Celui qui est sterné de Dieu Néhémie commet pas le péché. Il Néhémie peut pas pécher. La semence de Dieu est en lui. Il Néhémie peut pas pécher. Il n'y a plus du tout le désir du péché. Aussi longtemps que vous désirez le péché, vous en êtes coupable. Mais quand vous en avez plus le désir, si vous faites quelque chose de mal acquis, vous n'aimez le faites pas volontairement. Hébreux 10:10 si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y reste plus de sacrifice pour le péché, péchez volontairement. Ainsi si vous voulez continuellement pécher volontairement, il y a quelque chose de faux avec votre expérience. Par conséquent, en comprenant Hébreux 10, nous devons aussi comprendre que cela parle de l'apostasie du temps de fin qui tombe. Et l'apostasie de la foi, puisque là la foi est une révélation alors l'apostasie, c'est en fait l'apostasie de la révélation de Jésus-Christ. 1 Timothée 4, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Remarquez alors, c'est l'apostasie de la foi, la révélation, et puisqu'il n'y a qu'une seule foi, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, alors c'est cette apostasie de la révélation de ce seul Seigneur, ce qui est la révélation de Jésus-Christ. De Thessaloniciens 2, 3 que personne n'ait vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, Colossiens 1:16 car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Toi a été créé par lui et pour lui. 17. Il est terre avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. 18. Il est terre la tête du corps de l'Église. Il est terre le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Par conséquent, nous devons comprendre que cette apostasie de ce temps de la fin le concerne lui, car il est terre avant toutes les choses, et toutes les choses ont été créées par lui et pour lui, et il est terre avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Et cette apostasie concerne l'éloignement des croyants d'une révélation centrée sur Christ à une révélation centrée sur autre chose. Ensuite, il nous donne des exemples de ce changement, qu'il appelle des doctrines de démons. Paul nous dit dans Timothée que cet éloignement d'une révélation centrée sur Christ à une foi centrée sur autre chose vient par l'intermédiaire d'esprits séducteurs et des doctrines de démons. Par conséquent, pour comprendre cette apostasie, j'énumérerai comme point numéro 1 toutes choses lui sont soumises et point numéro 2 et toutes choses tournent autour de lui ou sont en réaction à lui. Et comme tous les événements du temps de la fin lui sont soumis et tournent tous autour de lui, et sont en réaction à sa personne, sa présence, alors tous les événements qui constituent le temps de la fin Néhémie peuvent pas commencer sans sa présence comme catalyseur de la fin. Par conséquent, il n'est mis peut y avoir d'apostasie de la foi, sans qu'il y ait la foi pour commencer. Et sa présence est intervenue pour confirmer cette foi. 1 Timothée 6, 3-8. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et Néhémie s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine, qui est terre selon la piété. 4 Il est terre enflé d'orgueil. Il n'émit à rien. Et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. La version King James sincère, retire-toi de tels hommes. Note du trad. 5 Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. 6 Esther, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. 7 Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et l'Esther évite que nous n'en pouvons rien emporter. 8 Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Remarquez, Dieu Néhémie veut pas qu'on s'agace mutuellement. Paul parle de ceux qui adorent des questions et des disputes de mots et des mauvais soupçons et des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement. Privé de la vérité, Paul continue et dit, retire-toi de tels hommes. Paul a également dit dans 2 Timothée 2:12-19 si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. 13 Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il n'est mis peut se renier lui-même. 14 Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui Néhémie servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. 16 Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. 17 De ce nombre sont Hyménée et Philette. 18 Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renverse la foi de quelques-uns. 19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ainsi nous voyons que cette apostasie conduira des discours vains des hommes, qui vont se battre, s'asticoter et se disputer sur le sens des mots, et ils soulèveront des questions qui susciteront des querelles. Mais nous sommes avertis de nous tenir loin d'eux. Et ce genre de comportement est attribué à l'apostasie. L'apôtre Paul dit, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Le verbe éviter signifie n'aimer pas s'en approcher. Et ce dont nous ne devons pas nous approcher, ce sont des discours vains et profanes. Et le mot profane signifie révérencieux et offensant. En d'autres termes, nous devons juste écouter la manière dont ils parlent. Et s'ils, Néhémie, peuvent pas avoir une conversation polie et courtoise sans devenir arrogant et piquer une crise, et commencer à appeler des noms d'oiseaux, alors nous devons juste nous en éloigner. Et l'expression discours vain signifie des discussions stériles, du bavardage dénué de sens. Par conséquent, à moins que leur discussion soit quelque chose de fructueux, et sauve la vie, ou corrige l'erreur, alors laissez cela tranquille. Ce sont des discours vains. En d'autres termes, nous devons considérer les motifs et les objectifs de ceux qui discutent, avant de nous lancer dans la discussion, car, à moins qu'ils recherchent sincèrement la vérité, vous, Néhémie, pourrez pas les aider. Leur décision Esther déjà prise, et tout ce qu'ils veulent, c'est Esther provoquer une dispute. Et Paul a prédit, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène, ou l'ulcère. Et que produit un ulcère? Une douleur lancinante dans l'estomac. En d'autres termes, Paul dit que rien de bon Néhémie sortira des discussions avec des personnes irrévérencieuses et impies. La seule chose que cela produira, c'est Esther, une angoisse lancinante dans votre estomac. Maintenant, l'apôtre Paul nous a donné un exemple de cette apostasie en son jour dans 2 Timothée 4, 10 car des mains m'a abandonné, par amour pour le siècle présent. Et il est Esther parti pour Thessalonique. Remarquez, on n'entend plus parler de Démas dans le reste de la Bible. Et remarquez, Paul nous fait savoir que le motif de Démas de l'abandonner était qu'il aimait le monde et les soucis du monde plus qu'il n'aimait la vérité de Dieu. Nous voyons encore un autre exemple d'apostasie donné par Jésus-Christ lui-même dans Luc 9, 62. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est-ce pas propre au royaume de Dieu? Nous voyons encore un autre exemple d'apostasie dans le livre des Actes 7h39. Nos pères Néhémie voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent. Et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte. 40 ans disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous Néhémie savons ce qu'il est devenu. Maintenant, puisque nous savons qu'il doit y avoir l'apostasie, alors il serait bien de comprendre qu'il y aura une punition que Dieu garde en réserve pour ceux qui sont volontairement ignorants. Car ces personnes sont des renégats, ce qui Esther définit comme étant, ceux qui abandonnent la foi. Le contraire de l'apostasie serait de s'approcher davantage. Jacques nous dit dans Jacques 4, 8 « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 9. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. 11. Néhémie parlait point mal à qui les uns des autres. Frères. Celui qui parle mal à qui d'un frère, ou qui juge son frère, parle mal à qui de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. 12. Un seul Esther législateur et juge, c'est Esther celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qu'es-tu, qui juge le prochain? En d'autres termes, il dit 7-10, laissez donc Dieu faire sa volonté en vous. Criez un nom retentissant au diable et voyez-le décamper. Dites un docile oui à Dieu et il sera là en un rien de temps. Cessez de vous complaire dans le péché. Épurez votre vie intérieure. Cessez de sortir avec tout le monde. Touchez le fond et pleurez à chaudes larmes. Sester finit de s'amuser comme des petits fous. Devenez vraiment sérieux. Tombez sur vos genoux devant le maître. Sester la seule manière de se relever. Remarquez, on nous dit que si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera aussi de vous. Si vous courez à Dieu, il courra à vous. Mais on nous dit aussi dans Chronique 28, 9 si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. En Chronique 28, 9 l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Sester, pourquoi Hébreux 6 Esther, si important pour nous? Parce que Sester l'heure d'être, éclairé une fois pour toutes, et si vous abandonnez cet éclaircissement d'une fois pour toutes, Dieu vous abandonnera pour toujours comme il le dit dans Psaume 1:4-6, n'en Esther pas ainsi des méchants. Mais ils sont comme la balle que le vent chasse. 5 Esther, pourquoi les méchants n'y subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. 1, 6 Car l'Éternel connaît, le Seigneur veille sur la voie des justes. Mais la voix des méchants périra. Ce verbe périr a été traduit du mot hébreu avban qui signifie qu'ils sont laissés à eux-mêmes. Ainsi Sester l'heure de l'abandon total. Les hommes abandonnant Dieu et Dieu les abandonnant, et Néhémie leur permettra jamais de revenir à la repentance ou de changer encore d'avis. Alors ils sont finis. Ils le sont. Maintenant, laissez-moi expliquer ce que je veux dire par là. Question et réponse numéro 1:54-0103-77 Maintenant remarquez. Alors, quand ils ont été emmenés captifs, emportés à Babylone, parce qu'ils avaient cherché à imiter les nations du monde. Quelle belle image aujourd'hui, de l'Église qui cherche à imiter le monde, là-bas, et qui est emportée par le mode de vie de celui-ci. L'Église vit exactement comme le monde, se conduit, agit exactement comme le monde, et tout, alors qu'elle prétend être l'Église. Vous, Néhémie, pouvez pas faire ça. Non, monsieur. Votre vie démontre ce que vous êtes. 78 Ce que vous êtes. Comme je l'ai dit au début, ce que vous êtes ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Ce que vous êtes, ce que votre corps céleste, ou, votre corps terrestre reste à là-bas, ce que votre corps céleste est ailleurs, c'est ce que vous reflétez ici. Dans le pays des esprits, ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes ici. Si vous avez encore des pensées vulgaires et ce genre de choses dans le pays des esprits, vous avez des pensées vulgaires ici. Si vous avez encore de la méchanceté, de l'envie et des querelles, que vous avez ça dans le pays des esprits, ça se reflète ici. Mais si, jusqu'au plus profond de votre être, vous avez été nettoyé et purifié, ça montre que vous avez un corps là-bas, qui a été nettoyé et purifié. Et ça se répercute dans la chair. Vous le voyez? N'est-ce pas? Vous voyez? Voilà. C'est clair ça. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Voyez? Le cinquième saut 63-032-313 ces hommes-là aussi, ils sont encore prophètes. Or, dans quelques instants, nous allons approfondir un peu là-dessus, si Seigneur le veut. Voyez, 314 eaux. Là, comme j'aime les paroles. Ce n'est pas étonnant que l'homme Néhémie vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 315 Ces deux prophètes, ce sont Moïse et Élie. D'après leurs œuvres, les mêmes œuvres qui sont reproduites. Ça a toujours été leur ministère. Maintenant, remarquez exactement ce qu'ils avaient fait. Néhémie les a pas changés. Souvenez-vous, ces hommes-là Néhémie sont jamais morts. Regardez bien un instant. 316 maintenant, Néhémie confondez pas. Avant que nous passions à autre chose, Néhémie confondez pas le ministère d'Élie la cinquième fois, et son ministère la quatrième fois. Je vous l'ai répété, l'Église des Nations s'attend à la venue d'Élie. Exact. 317 et voilà qu'on le retrouve, ici, avec les Juifs. Souvenez-vous, il Néhémie peut pas venir quatre fois. Sester le nombre de l'ennemi. Il faut que ce soit 5. Les demeures futures 64-0802-482 haut, frères et sœurs. La mort Néhémie vous change pas. La mort vous fait seulement changer de demeure. Voyez, 483 rappelez-vous, Samuel, quand il était mort et qu'il avait été enterré depuis 2 ans, il était au paradis. Et la magicienne d'Endor l'a fait monter, et Saul l'a reconnu, et elle aussi, et elle Esther tombée sur sa face. Il n'avait pas changé du tout. Il était toujours le même Samuel, après avoir été mort pendant 2 ans, et il était toujours prophète. Il a dit, demain tu tomberas au combat, ton fils avec toi. Et avant cette heure-ci, demain soir, tu seras avec moi. Et c'est Esther exactement ce qui est arrivé. 484 voyez. Et quand Moïse reviendra, et Élie, pour Apocalypse 11, ils seront toujours prophètes. Alléluia. Le cinquième saut 63-0322-309 vous voyez, l'homme, quand il meurt, il n'aime et change pas de rang. Il n'aime et change pas de nature, vous voyez. Regardez, quand, avant que, 310 quand Saul avait rétrogradé, et qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays, il n'aime et savait pas quoi faire. Il se heurta à des difficultés. Un combat s'annonçait. Il Esther allait voir la magicienne d'Endor. 311 Or, il n'y avait que le sang des taureaux et des boucs. Alors elle a pu faire cela. Elle a fait monter l'esprit de Samuel. 312 Et quand Samuel Esther arrivait, il se tenait là, enveloppé de son manteau de prophète. Et non seulement cela, mais il était encore prophète. Il a dit, « Pourquoi m'as-tu fait sortir de mon repos, voyez-vous ? » Il a dit, « Puisque tu es devenu un ennemi de Dieu ? » Il a dit, « Avant demain soir, à 7 heures, tu mourras au combat. Et demain soir, à 7 heures, tu seras avec moi. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Acquérions-nous 60-0606-66 maintenant? Écoutez, mes amis. Si vous mourrez sans l'esprit de vie en vous, vous Néhémie pouvez pas aller à cet endroit. Écoutez, comme je l'ai dit au début, l'amour Néhémie change pas votre esprit. Il Néhémie fait que changer votre lieu d'habitation. J'enseignais sur cela il y a quelques soirs. Et je suis arrivé sur le sujet au sol, quand il avait rétrogradé par rapport à Dieu. Et le rimtumim Néhémie lui répondait pas, ni un prophète Néhémie prophétisait ni Néhémie pouvait lui répondre. Il Néhémie pouvait même pas avoir un rêve du Seigneur. Et il Esther partit faire demander à la sorcière d'Endor d'appeler l'esprit de Samuel. Et Samuel était mort depuis 19 ans, je viens de le vérifier pour en être sûr. Il était mort 19 ans plus tôt. Et quand la sorcière d'Endor a appelé l'esprit de Samuel, son aspect n'avait pas changé. Il se tenait toujours là, mince avec un manteau sur l'épaule. Non seulement cela, sa vie n'avait pas du tout changé. Il était toujours le même Samuel et était toujours prophète. Par la 7 montagne 57-1215-32, quand la sorcière d'Endor a appelé l'esprit de Samuel, il était toujours enveloppé dans son manteau de prophète, et il était toujours prophète. Il lui a dit ce qui se produirait le jour suivant. Certainement. L'amour Néhémie change pas l'homme. Elle change juste son lieu d'habitation. Si vous êtes un pécheur quand vous mourrez ici, un incroyant, oh, il se peut que vous soyez un fidèle membre d'église. Mais si vous mourrez dans votre incrédulité, il ne vous reste plus rien que d'être condamné. Si vous mourrez dans la foi, c'est ce qui vous sauve. Votre foi vous a sauvé. Vous devez aller à la vie éternelle, parce que c'est la vie éternelle qui est votre foi en Dieu, la même chose. Puisse le Seigneur accorder ce soir de nous bénir dans ces moments de la partie qui reste à venir de la réunion. Le cinquième saut 63-03-22-452, regardez bien. Voyez Moïse. Élisée. Après que Moïse est mort, et qu'Élisée a été emporté au ciel, il était là, sur la montagne de la transfiguration avec ses sens, il pouvait parler, entendre, comprendre. Et il a conversé avec Jésus avant sa crucifixion. Or, quelle sorte de corps avait-il? 453 Voyez Samuel, qui était mort depuis environ 2 ans. La magicienne d'Endor, dans la caverne, cette nuit-là, elle l'a fait revenir. Et il a parlé à Saul. Il a tenu une conversation avec Saul. Il a entendu Saul. Il lui a répondu. Et il lui a annoncé d'avance les choses qui allaient arriver. Encore là, son esprit n'avait pas changé. Il était prophète. Et encore dans Expliquer la guérison et Jaïrus 54-02 ainsi se 37 le diable essaye juste de faire sortir de vous quelque chose par la frayeur. Il essaye de repousser quelque chose autre part. Par exemple, un de ces jours, vous serez ceci. Vous l'êtes maintenant. Maintenant, nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Nous avons maintenant tous les pouvoirs dans le ciel et sur la terre. Voyez? Nous l'avons maintenant. Pas dans le millénium. Nous n'en aurons pas besoin alors. Nous l'avons maintenant. Nous sommes en ce moment-ci des fils de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que nous serons semblables à lui. Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes ailleurs. Ce qu'il a appelé, il justifie. Est-ce exact? Ce qu'il a justifié, il a glorifié. Nous avons déjà, dans la présence du Père, un corps glorifié. Fiu. N'était-ce pas profond? Très bien. Nous allons découvrir si c'est exact ou pas si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Nous en avons déjà un qui nous attend. Est-ce exact? C'est exact. Donc, en ce moment, et ce qui nous sommes là, est un reflet. Ici, ce que nous sommes ici, est un reflet de ce que nous sommes ailleurs. Ainsi, si vos actions sont mauvaises, vous savez d'où cela vient. Vous savez où vous êtes en votre autre corps. Et cela ne concerne pas juste un prophète, mais cela concerne chacun de nous. La porte du cœur 58-011-4 est à vous. Les autres frères ministres, qui ont été dans les réunions, un jour quand tout sera fini. Et pensez-y, quand tous ces grands cœurs se réuniront ensemble, est-ce ce que sa Néhémie sera pas merveilleux? Vous pourriez dire, frère Branham, croyez-vous qu'ils auront encore leur talent? Certainement. Bien sûr. On leur a donné cela pour toujours. Si vous remarquez, quand la sorcière d'Endor a appelé l'esprit de Samuel, il était toujours prophète. Ainsi la mort Néhémi fait que nous déplacer dans un lieu différent d'habitation. Celui-ci Esther juste pour un peu de temps, et celui-là Esther éternel. Ainsi nous comptons sur ce jour. Le signe de la semence du temps de la fin 62-0319-10 alors. Vous dites, eh bien, Jésus a guéri les malades. Il Esther la parole. Il Esther la parole. Lorsque vous recevez la parole, vous recevez Jésus, car il Esther la parole. La parole fut faite chair et habita parmi nous. Nous croyons cela, n'est-ce pas? Chaque passage. Nous croyons que Christ Esther la parole de Dieu manifestée, et nous croyons que son épouse doit être la même chose. Nous croyons qu'elle doit croire toute la parole et qu'elle doit avoir cette parole en elle, parce qu'elle Esther une partie du corps. Elle Esther le corps dont lui Esther la tête. Et lorsqu'il fut mort, qu'il se releva des morts, qu'il ressuscita, il s'assit dans les lieux très hauts. Alla, près de la majesté de Dieu sur son trône, à la droite de sa majesté. Alors, et nous sommes ses représentants. Et nous nous considérons comme morts et ensevelis par le baptême, ressuscités avec lui et assis maintenant avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cela devrait nous faire tous pousser des cris, non? Pensez-y. Nous sommes, pas nous serons, nous sommes maintenant. Nous sommes maintenant fils de Dieu. Nous sommes maintenant filles de Dieu. Non pas que nous serons assis, nous sommes maintenant assis. Questions et réponses sur les Hébreux deuxième partie 57-1002, 396 donc. Il fallait que ce soit quelqu'un qui n'ait soit pas coupable qui le fasse. Et le seul qui n'était pas coupable, c'était Dieu lui-même. Il a fallu que Dieu descende et devienne homme et il est revenu sous la forme de Christ, pour ancrer l'aiguillon de la mort, pour retirer l'aiguillon de la mort, pour nous racheter, afin que nous, pas par nos œuvres ni par notre bonté, nous n'en avons pas, mais par sa grâce, que nous soyons sauvés. Alors nous recevons une partie de sa vie dans ce corps mortel, et nous sommes maintenant fils et filles de Dieu, et nous avons la vie éternelle en nous. Nous sommes fils et filles de Dieu. Par conséquent, comme Jésus Esther vivant, 397 et aucun homme, peu importe combien il Esther méchant ou combien il Esther bon, là, il lui faut, quand il quitte cette terre, il n'Esther pas mort. Il Esther quelque part ailleurs. Mille a une vie qui périra. Après qu'il aura été puni en enfer pour ses œuvres, il. Mais malgré tout, cette vie-là devra se terminer. Il n'y a qu'un seul type de vie éternelle. Hébreux 6 Hébreux 6 nous dit comment toutes les choses sont figées dans l'espace et le temps, pour n'aimer jamais changer, sans jamais être en mesure encore de se repentir, ou de changer encore. Vous qui avez le Saint-Esprit, qui avait la vie éternelle, une vie qui n'émit chante jamais, mais ceux qui se détournent de la révélation de Jésus-Christ sont cristallisés pour toujours. Oh là là. Et Dieu dit dans Esaïe 1:28 mais la ruine atteindra tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'éternel périront. Alors leur destin Esther scellé et Néhémie peuvent pas se repentir et échapper à leur destin, parce qu'ils se sont détournés de la vérité. Et ils sont entrés dans la malédiction, comme nous le voyons dans Jérémie 17. 5 Maudit soit l'homme qui détourne son cœur de l'Éternel. Ézéchiel 3:20 Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui Esther mal acquis, je mettrai un piège devant lui, et il mourra. Pourquoi? À cause d'Hébreux 6. L'iniquité est une ignorance volontaire, et ils deviennent ignorants parce qu'ils ignorent la vérité. Et ils franchissent cette ligne de démarcation et quand ils le font, c'est fini. Ils n'aiment peuvent plus changer. Hébreux 10h26 car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est fini. Vous avez traversé la ligne de démarcation et vous vous êtes scellé pour toujours loin de la miséricorde. Vous vous êtes cristallisé sur le continuum espace-temps et vous n'aimez, pourrez jamais recevoir un changement de la pensée ou du corps. Vous êtes condamné pour toujours. Ce que vous êtes ici est un reflet d'où vous allez. 27 mai une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu, qui dévorera les rebelles. 28 celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de deux ou de trois témoins. 29 de quel pire châtiment, pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la Grâce. 30 car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. 31 c'est une chose terrible, que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ézéchiel 18h24 Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous n'aimez faites que vous mentir à vous-même si vous pensez que Dieu vous pardonnera, quand volontairement, vous outragez l'Esprit de la Grâce et considérez le sang comme quelque chose d'ordinaire, être piétiné par votre arrogance. Ézéchiel 18h26 Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Jean 15 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Juste de la chair à canon, c'est tout. Question et réponse numéro 254-010-191 Ce que vous êtes ici. Maintenant retenez bien ceci. Je vais terminer. Mais ce que vous êtes ici est une indication que vous êtes quelque chose d'autre quelque part. Vous avez toujours désiré vous trouver dans la perfection, vous, les chrétiens. Il existe une perfection, et cette perfection ne se trouve pas dans cette vie. Mais chaque homme et chaque femme ici qui sont chrétiens, chaque personne ici qui est chrétienne en ce moment, est déjà glorifiée dans la présence de Jésus-Christ. Et vous avez un autre corps. Vous ne l'aurez pas à un autre moment, vous l'avez maintenant même. Maintenant même, un autre corps vous attend, si celui-ci devait périr. Pouvez-vous concevoir cela? Étudiez cela pendant un instant. 192 Savez-vous que nous pourrions tous nous retrouver dans l'éternité avant que le soleil se lève demain matin? Or, si vous n'êtes pas chrétien, mon ami, il n'y a qu'une chose qui vous attend. Vous devrez forcément prendre cette direction-là. Si vous êtes sur ce chemin-là, vous devrez suivre ce chemin-là. Si vous êtes un grain de maïs, vous produirez du maïs. Si vous êtes un grain de tronc, vous produirez une vie de grain de tronc. Maintenant, si vous avez fait partie d'une église quelque part, où on n'aimait pas et où on n'enseigne pas, et où on se contente de vous laisser venir à l'église et être un membre d'église. Vous dites, eh bien, frère Branham, mon église enseigne que nous devons accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Si votre vie ne correspond pas, vous n'y êtes pas encore. Enfin, pour conclure, lisons une citation de frère Branham où il a parlé d'Ecclésiaste dans son sermon La Communion 55-0403-97. Écoutez ce grand homme, l'homme le plus sage, Salomon, et tous les autres hommes, parlant dans les Ecclésiastes. Il a dit, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit absolument tout homme. Et dans Ecclésiaste 3h15 Salomon a dit, ce qui a déjà été, et ce qui sera a déjà été, et, Dieu ramène ce qui passé. Prions. C'est Grâce Fellowship Tabernacle, octobre 2016. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourec@yahoo.com.